Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Vous n'êtes pas trop essoufflé? Justement, je voudrais vous parler de vent ce matin. C'est pour ça que j'ai poussé un petit peu les choses. Savez-vous combien il y a de vent autour de notre planète? Vous savez pas? Il y a des vents locaux, régionaux, nationaux, internationaux. Je ne pourrais pas vous dire le chiffre. Hein. Mais en tous les cas, je vais vous parler de deux vents. Alors, on va se laisser ventiler, si vous voulez bien. Puis c'est le printemps, une période de vent aussi. Alors, première localisation de notre méditation ce matin. Dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 8. Genèse. Alors, c'est un grand classique, hein. Verset 7, on peut commencer par là. Les yeux de l'un et de l'autre entendaient par là Adam et Ève s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, je relis, hein. Ils entendirent la voix. On pourrait dire le souffle de Dieu, le vent de Dieu. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu du jardin, des arbres du jardin. J'ai nommé ce passage, enfin le texte que nous allons étudier maintenant, les passagers du vent, et j'ajoute, les passagers du vent de l'esprit. Et je crois que c'est intéressant, nous sommes à quelques jours de la Pentecôte, et là il y a une histoire de vent aussi, un vent violent. Nous avons lu, il nous est dit qu'ils entendirent la voix, le vent, le souffle, la parole de l'Éternel, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. C'était un vent créateur. C'était le vent de la vie. Et pourtant, ils se sont cachés parce qu'il y avait un problème sous-jacent, encore inconnu. Et je voudrais vous dire que la première notion de vent, le vent de Dieu, qui étaient naturellement des plus bénéfiques, eh bien, ils ont eu peur. Eh oui, il y a des vents qui font peur. Hein. Il y a des souffles autour de nous, bord de la mer ou sur le haut des montagnes, qui sont redoutables. Et ils ont eu une peur irraisonnée, dans ce sens qu'ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas. Mais il y avait quelque chose que l'on appelle la conscience à l'intérieur d'eux-mêmes. Et cette conscience, eh bien, s'est mise tout simplement à signer l'alarme. C'était un signal. Non pas pour fuir Dieu, mais pour se rapprocher de lui. En passant par, eh bien, la voie normale, c'est-à-dire reconnaître. Reconnaître à la fois celui qui leur parlait, mais ils ne savaient plus le reconnaître. Il y avait quelque chose qui s'était refermé. Quelque chose qui avait disparu. Dans le livre, je cite, hein, on y reviendra tout à l'heure, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, il nous est dit ceci. Il vint du ciel comme un vent impétueux. Retenez bien, un vent impétueux, un souffle impétueux qui remplit toute la maison. Et on verra la suite tout à l'heure. Dans Jean, chapitre 3, Jésus parlait à un vieil homme qui s'appelle Nicodème. Ça, c'est vraiment aussi du classique. Et Jésus dira à cet homme, le vent souffle où il veut et comme il le souhaite. Le vent souffle où il veut et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit, qui est né de Dieu, qui est né de la parole de Dieu qui donne la foi, qui est né tout simplement du cœur de Dieu. C'est le vent de la vie. La peur entraîne la mort. Toutes sortes de perturbations qui, véritablement, nous font trembler, de terreur peut-être, de frayeur. Mais là, il est simplement dit à ce brave Nicodème, c'est ainsi que l'homme né de nouveau, eh bien, connaît une autre dimension. Tu ne sais ce vent. Tu ne sais ni d'où il vient et ni où il va. Alors on y reviendra tout à l'heure. Entrant de la voix de l'Éternel, le souffle de Dieu, le vent de Dieu, qui a fait que Adam et Ève se sont cachés, parce qu'ils ont éprouvé pour la première fois ce que c'était que la peur. Oui. Il y a, dans les temps de tempête ou d'ouragan, des vents qui terrorisent. Il y a un bruit. Ça fait trembler les maisons. Ça fait jusqu'à, nous dira, eh bien, dans l'histoire d'Élie, trembler les montagnes. Ah oui. Et on peut avoir peur du vent. On a peur de l'orage. Là, c'est encore aussi un vent et un bruit dans les lieux célestes, dans les lieux de notre ciel. Alors, nos craintes, qu'est-ce que c'est que ce vent-là ? La crainte qui te saisit, qui nous emporte, qui monte petit à petit ou alors d'une manière soudaine. Alors la crainte, et nous allons définir justement ce premier vent. La peur, la crainte et ses conséquences. Les maux que la crainte et la peur génèrent et que l'on appellerait, eh bien, tout simplement les maux, M-A-U-X, naturellement, et ses émotions. Et je voudrais vous donner justement ces conséquences rapidement. D'abord, la peur nous prive de notre liberté. Nous pouvons être tout simplement demeurer placides, c'est-à-dire que tout simplement nous ne savons plus où nous en sommes. Ça nous saisit, ça nous prend à l'improviste. Et puis là, nous ne savons plus ni aller à droite ni aller à gauche et nous ne savons pas quoi penser. Donc la peur nous prive de notre liberté. Souvenez-vous-en quand vous avez peur. Hein. Parce que tout cela, la liberté, c'est une vertu de Dieu que Dieu nous donne justement pour vivre heureux. La liberté. Cela peut produire aussi un affolement de notre imagination ou de notre raison, de notre mental raisonné avec lequel nous raisonnons. Et ça peut faire un blocage. Il y a des gens qui sont stupéfaits, qui sont pétrifiés devant la crainte et la peur, quelles que soient naturellement les raisons. Un blocage. Il y a des gens qui sont complètement inertes à un moment donné. Ils sont comme frappés de je ne sais quel, coup d'arrêt, on peut dire ça comme ça. La crainte et la peur, le vent de la crainte et la peur, annihilent notre confiance naturelle dans les choses que nous connaissons bien, mais là, nous ne pouvons plus les gérer. Tout nous fait peur. Tout est un sujet de peur, de fuite, d'évasion, en quelque sorte, devant ces phénomènes. Et nous en perdons le bon sens. Ouais. Ça fait partie justement des conséquences. Et cette peur et cette crainte, ce vent de cette peur et cette crainte, s'oppose à la foi de Dieu. Parce que la foi, c'est la paix. La foi, c'est la confiance. C'est la tranquillité. C'est le repos. Mémorisez cela parce qu'on va reprendre tout à l'heure dans une autre version. Alors, ça s'oppose à la foi de Dieu. Et nous sommes agités comme le vent, nous sommes comme une feuille sur un arbre à l'automne, puis là nous ne savons plus où nous en sommes nous-mêmes. Ces éléments de vent, peur et crainte, suscitent notre imagination. C'est encore aussi un autre aspect des choses. Et cela va nous amener, non pas à aller vers le mieux, le possible, la délivrance, mais la négativité. Et nous allons voir finalement tout mauvais. Rien de bien. Nous allons avoir encore peur de Dieu et de tout ce qui peut arriver, que nous nous imaginons, qui ne sera peut-être pas des réalités, mais c'est véritablement un obstacle à notre vie. Négativité, et qui nous rend inefficaces dans nos réactions positives. Eh oui, il y a beaucoup de mal que nous nous faisons à nous-mêmes parce que nous ne savons pas gérer par la foi. En faisant confiance à Dieu, nous prenons peur, nous disons « qu'est-ce qu'il va m'arriver ?» Et il y a là un vent de culpabilité qui tombe sur nous et qui fait que nous sommes comme si nous étions dans un cachot infernal. Ouais. Et c'est vrai pour nous en tant que chrétiens. Dieu est venu nous dire « ne craignez rien ». C'est Jésus qui nous le dit ça. Combien de fois dans l'Évangile, « n'aie pas peur, ne crains rien ». Et dans des circonstances qui faisaient qu'ils avaient peut-être l'occasion, les disciples sur le lac, d'avoir peur. Et pourtant, c'était des matelots chevronnés. Comme quoi, on peut avoir une expérience solide. Et là, on perd tout. On perd nos moyens, c'est ce que l'on dit. La peur, le vent de la peur et de la crainte est un fléau. Quand elle domine notre réflexion, nous sommes finalement vidés de toute possibilité de réfléchir utilement, de pouvoir peut-être saisir l'esquif que nous sommes, eh bien pour nous raccrocher. Nous perdons finalement. Et vous savez que un des disciples de Jésus, Pierre dans la barque, quelque part va perdre pied. Jésus lui dit « viens ». N'aie pas peur, et foi en moi. Et là, croyant voir un fantôme, un spectre, eh bien, alors à ce moment-là, il va détourner ses yeux de Jésus pour regarder, pour écouter le vent, la mer et les vagues. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme c'est normal. Il va perdre finalement, eh bien là, cette faculté de marcher sur les eaux pour aller au fond du lac. Or, Jésus lui tend la main. Ouais, il lui tend la main pour le ramener en surface. Nous ne pouvons plus faire d'analyse logique ou lucide des faits. Et nous nous disons souvent, peut-être que vous l'avez dit cette semaine, ou vous l'êtes dit cette semaine, je n'y arriverai jamais, je ne m'en sortirai jamais. Je ne pourrai pas, c'est pas possible. Moi, je voudrais vous dire que vous pensez le contraire de ce qu'il faudrait penser. Avec le Seigneur, on s'en sort toujours. Sans problème. Alors maintenant, il faut regarder vers lui. Les yeux fixés sur Jésus, nous dit le livre des Hébreux. Et ce « j'y arriverai jamais », c'est trop grand pour moi, c'est trop fort pour moi. Avec Dieu, ça n'existe pas. Jusqu'à chez Jésus, capable de ressusciter les morts. Alors là, c'est quand même le nec plus ultra et l'aboutissement parfait. Et son corollaire, finalement, eh bien, d'être encouragé par la vue de Jésus, le souffle de Jésus qui nous parle, c'est toujours le souffle qui parle. Son corollaire, c'est le découragement et la passivité. Je me laisse faire, je baisse les bras et on ne va pas plus loin. C'est encore un vent négatif, ça, celui-ci. Un peu plus loin, la crainte et la peur nous entourent et inventent toutes sortes de fausses protections. C'est-à-dire que nous essayons de nous raccrocher à ceci ou à cela, et ce sont des erreurs, parce que c'est ça ce qui va nous faire couler. Et nous nous disons, logiquement, humainement parlant dans notre logique, qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, dans l'affolement naturellement. Et ce sont des fausses protections. Et même jusqu'à trouver des raisons même religieuses, qui deviennent à ce moment-là de la superstition. Vous savez, on dit souvent, devant une perspective de malheur ou de chute, je touche du bois. J'ai touché du bois. Vous n'avez pas peur? Moi, j'ai pas peur. N'importe quel bois. Oui, mais ça, ce sont des paroles d'incrédulité. Ce sont des paroles de superstition. Et il y a des vents qui soufflent comme ça au fond de notre cœur et qui nous induisent en erreur en pensant que, en faisant ceci, en faisant cela, toutes les médailles religieuses pour se protéger. Saint Christophe, vous le connaissez bien, non? Vous en avez tout ça dans votre voiture? Non? Bon, ben, je vois qu'il y a quand même du négatif chez vous. Alors, eh oui, mais ça, c'est de la superstition. Ce sont des vents qui soufflent. De par l'éducation que nous avons reçue, on nous a super protégés en disant ceci, ceci, cela. Mais tout ça, ça ne va pas, ça ne tient pas la route. Tout ça, c'est inadéquat, parfois contraire au bon sens dont nous avons parlé tout à l'heure. Ces vents de la peur ou de la crainte produisent chez certains des réactions qui sont très vives, que l'on appelle la colère ou la révolte. Ah oui, on se met en colère, on se dit, mais c'est pas possible. Alors qu'est-ce que fait Dieu? Est-ce que Dieu existe? Au moment où j'en ai besoin, il n'est pas là. Nous amène à des mesquineries, à des jalousies, à de la vanité et à du déni. Ça n'existe pas. Ben oui, c'est sûr que tout ça, c'est dans notre tête. Et il y en a un qui souffle, qui ne veut pas nous amener à croire que nous avons un secours infaillible dans la personne de Christ. Si nous l'invoquons, si nous invoquons son nom, tout ce que vous demanderez en priant avec foi, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Gardez cette parole en permanence dans votre vie. Et là, vous verrez s'accomplir des choses. Et le déni, c'est véritablement de dire, eh bien, moi, je ne veux pas y croire, tout simplement. Et cela nous renferme sur nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle un égoïsme, de l'égoïsme perturbateur au plus haut point et nous amène à l'isolement, tout simplement. Et puis, je donnerai encore une autre version de ce que les premiers parents ont eu quand Dieu leur a parlé, il leur a donné son vent de sa parole, c'est qu'elle paralyse. On l'a dit il y a quelques instants, nous en faisons une obsession et nous disons, ben voilà, c'est comme ça, ça ne peut pas être autrement. Nous voyons aussi que les vents qui font peur dérangent et crée un état naturellement forcément de trouble, nous l'avons dit. Ceux qui souffrent à l'intérieur de nous-mêmes peuvent s'appeler dépression, l'angoisse, l'anxiété, ceux de la confusion, où là, véritablement, nous perdons notre stabilité, nous sommes ballottés. Il y a une belle citation que je voudrais vous donner, c'est que les vents de l'âme, ouais, c'est pas seulement dans la tête l'intelligence, c'est pas seulement, eh bien là, en effet, d'une manière ou d'une autre que nous avons définie, dans lequel nous avons parlé un petit peu. Eh bien, écoutez bien, j'ai trouvé que c'était très pertinent, et mémorisez s'il vous plaît, les vents de l'âme ne tarissent pas les peines du lendemain, mais elles dessèchent les forces d'aujourd'hui. Je relis. Les vents de l'âme ne tarissent pas les peines du lendemain. Ça ne sert à rien. Chaque jour suffit sa peine. Mais elle dessèche les forces d'aujourd'hui. Ça, c'est la première proposition que je voulais vous faire à travers ce que nous avons, eh bien là, évoqué il y a un instant. Alors maintenant, nous allons passer à autre chose. Les vents qui font peur, qui angoissent, et puis les vents qui rassurent. Il faut bien mettre l'autre aussi, hein, parce que c'est le principal et c'est ce qui nous intéresse en tant que chrétiens, qui apaise. Vous savez qu'il y a un vent dans notre région, on n'en entend pas parler parce que, bon, il y en a hein, sur toute la surface de notre pays, et puis bah, dans le monde entier, hein, c'est comme les courants marins, hein, ils tournent autour de la terre, et puis les vents, c'est pareil. Les vents, c'est dans l'air, et puis les courants marins, c'est dans la mer. Voilà, on peut dire que c'est aussi des vents. Hein, il y a déplacement à ce moment-là. Il y a un vent, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, parce que, bon, on l'associe à d'autres vents peut-être plus forts. C'est ce que l'on appelle le vent de Galerne. Vous avez entendu parler du vent de Galerne? Peut-être. Il vient du nord et il souffle à l'ouest. C'est-à-dire qu'il descend tout simplement. Eh bien, probablement, il part de la mer du Nord, la Manche, et puis la côte atlantique où nous sommes. Et il a sa raison d'être, hein. Il souffle depuis des siècles et des siècles, hein, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et c'est un vent qui est froid et qui est humide. Et il a des sautes jusqu'à 20 degrés de différence en un instant. Vous voyez, quelquefois, C'est nous arrive encore maintenant. Alors maintenant, il faut savoir d'où il vient. Hein. Ça, nord, hein, nord-est. Mais ça arrive quelquefois, il fait un temps formidable, il y a un vent qui souffle soudainement, et là vous avez froid, après avoir été réchauffé. Hein. Donc ça c'est important de le signaler au passage, hein, c'est de la géographie tout simplement, parce que c'est bien de connaître un petit peu là ce que nous avons à vivre, et que l'assimiler aussi avec eh bien, un enseignement biblique. Alors, nous allons lire maintenant deux textes, que j'ai déjà lus, hein, j'ai donné une fraction de ces textes. Alors d'abord dans Jean, chapitre 3, verset 7. Il est dit ceci. Alors, 3, Jean, chapitre 3, verset 7. Alors, c'est Nicodème, naturellement, qui s'entretient avec Jésus ou vice-versa, ça n'a pas d'importance. Il est dit ceci. Ce qui est né, verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous, nous sommes nés par notre expérience avec Jésus-Christ. Nous sommes nés après avoir connu une naissance selon la chair, lorsque nous sommes arrivés, hein, petit enfant sur cette terre. Nous sommes maintenant nés de l'esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et Jésus va essayer de convaincre. Enfin, en tous les cas, il va lui dire. Il dira, mais ne t'étonne pas, Nicodème, de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Ça, c'est important. C'est pour chacun d'entre nous. Et je pense que la plupart d'entre nous, nous sommes nés de nouveau, nés de l'esprit. Alors il explique. « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Et la question de celui qui n'est pas familiarisé avec la dimension spirituelle, Nicodème dit à Jésus, « Comment cela peut-il se faire ?» Et Jésus lui répondra, « Mais tu es un docteur de la loi. Tu es un homme éminent dans ta société. Tu es un homme, un savant en quelque sorte. Et tu ne sais pas le principe le plus élémentaire de la vie sur la terre, c'est de naître de nouveau. » Alors après, je passe un petit peu un petit peu là où marche Nicodème, il n'arrive pas à comprendre, hein. Parce qu'on ne naît pas de nouveau avec notre intelligence seulement, ni avec nos sentiments ou notre ressenti. On naît par rapport au Saint-Esprit qui agit dans notre cœur et dans notre vie pour la transformer complètement, faire de nous de nouvelles créatures. Alors, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Ça, Dieu a créé un autre vent, certainement. Dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est des citations. Hein. « Tu ne sais pas quel est le chemin du vent. » Alors maintenant, on le sait, parce que bon, il y a la météo, il y a toutes sortes d'indications, et c'est quand même assez perfectionné. Hein. Il y a des vents forts, très forts même, surtout dans les tropiques. Mais dans la Bible, il nous est parlé de l'Aquilon. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Chez nous, dans la vallée du Rhône, ça descend de la Suisse, et ça prend le canal rhodanien, et ça descend jusqu'en Camargue, c'est le Mistral. Les gens qui ont vécu, il paraît, un petit peu dans ce midi-là, il paraît que c'est assourdissant. Nous, on a des amis qui ont quitté un petit peu notre région, et qui sont partis vivre là-bas. Il a dit, mais quand le Mistral souffle, je peux vous dire que c'est impossible. Il est froid, et puis il souffre avec une force extraordinaire. Puis il y a les cyclones hein, dont je vous parlais. Il y a des vents forts, mais il y a des vents faibles et modérés. La Bible nous parle du zéphyr, hein. Eh oui. Qui est une brise douce et légère. Puis il y en a d'autres comme ça. Hein. Ça fait du bien un vent doux et léger. Hein. Il en est parlé dans d'autres textes. Ouais. Dieu parle par le tonnerre, il parle par le feu. Il parle par toutes sortes de choses, mais il parle à travers des souffles doux et légers. Ça fait du bien. C'est très agréable. Il y a quelques symboles, justement, de ce vent nouveau que Dieu nous envoie. Un vent qui souffle dans les cheveux, c'est vrai que c'est la légèreté, hein. Oui, à moins que vous soyez chauve, là, ça, vous ne craignez rien. Mais une chose qui... Un vent qui souffle dans les cheveux évoque la fraîcheur, comme un esprit d'aventure, oui, qui vous porte, voilà. La liberté, on est bien à ce moment-là, hein. C'est certainement un zéphyr. Là où est l'esprit, nous dit Paul, dans une de ses épîtres, ça doit être les Corinthiens, 2 Corinthiens, Il nous est dit, là où est l'esprit, là est la liberté. Combien avons-nous besoin, mes frères et sœurs, de nous approcher toujours plus du Seigneur, de nous imprégner de sa parole qui nous fait des promesses, par rapport au baptême du Saint-Esprit, par rapport à la découverte de l'Esprit, l'Esprit de Dieu, de ce vent de Dieu, et nous voyons que ça nous procure véritablement un dégagement, un apaisement où l'on peut respirer. C'est bien, c'est agréable. Un vent qui souffle dans la voile d'un bateau, d'un navire, symbolise la force et la progression, baptême du Saint-Esprit, la vie de l'Esprit, naître de nouveau, oui, la force. Nous sommes emportés, mais dans la bonne direction. Le bateau va dans la bonne direction, de A jusqu'à B ou Z, je ne sais pas. Un vent de mer souffle le froid, et il est capable de souffler aussi le chaud, c'est-à-dire qu'il y a des variations en fonction de quelque chose qui nous dépasse naturellement. Ce vent qui souffle dans la voile d'un bateau est tantôt favorable ou il est contraire. Un vent peut être notre ami, mais il peut être aussi notre ennemi. C'est quelque chose, hein. Vous allez dans certains pays, moi je pense aux Pays-Bas. Alors tout est plat, hein. Je peux vous dire. Et si vous faites du vélo, parce que ce sont des cyclistes là-bas, émérites, je peux vous dire, quand vous avez un vent de face, alors là, vous mettez du temps, parce que c'est épuisant, c'est pas possible, ça vous prend et c'est quelque chose qui est difficile à contrer. Donc, dans le livre des Cantiques des Cantiques, il nous est parlé, c'est une prière en quelque sorte, « Lève-toi, Aquilon, viens, vent d'autant, souffle sur mon jardin, c'est poétique, et tes parfums s'en exaltent. » Eh oui, je pense que le vent de l'esprit, le vent qui nous a amenés à naître de nouveau, et qui nous fait maintenant la proposition merveilleuse d'être sous le souffle du Saint-Esprit, de recevoir le Saint-Esprit dans notre vie, eh bien, c'est tellement bien dit, il souffle sur mon jardin, tout simplement, et il y a là une bonne odeur agréable et formidable. Le Saint-Esprit, c'est une fleur, c'est un parfum, c'est un bourgeon qui va s'éclore, et qui va donner une fleur magnifique avec un parfum suave et extraordinaire. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. La plupart d'entre nous, je suppose, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. On a fait une expérience avec ce que nous allons découvrir dans un instant, le parler en langue. On va le lire là. Mais une chose qui est certaine, c'est que ça nous amène quelque chose de paisible et de reposant. Ça, ce sont les parfums qui nous sont dévoilés. Le vent se ressent, mais ce ne se voit jamais. Ou quand on voit le vent, c'est les effets. Ce n'est pas le vent lui-même. Oui. J'ai jamais compris cette expression, je le dis entre guillemets. La corde à virer le vent. Ça vous dit quelque chose, ça? Non? Ben, il n'y a que moi qui suis vieux, alors. Non? Alors, je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais je vous pose la question. Si vous avez la réponse, vous viendrez me voir. Ouais, c'est ça, On ne voit pas le vent, on n'en voit que ses effets. Et ça, c'est important. Ils sont tantôt bienfaisants, ils sont tantôt malveillants, ils sont parfois destructeurs. Il nous est dit à un moment donné, avant la Pentecôte, la première Pentecôte, Jésus souffla sur ses disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il avait ses disciples, il était ressuscité, et avant de monter au ciel, avant de répandre l'effusion de l'Esprit sur ses disciples, il souffla sur eux. Il ne s'est rien passé à ce moment-là. Mais c'était déjà l'engagement de la promesse qui allait devenir le don du Saint-Esprit. Et moi, je crois que ce matin, le Seigneur veut souffler sur nous. Vous êtes venus pourquoi? Pour me voir? Eh bien, voyons-nous. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous avons besoin d'entendre des prédications sur l'action, l'effusion, le baptême du Saint-Esprit, parce que c'est quelque chose d'important pour votre vie aujourd'hui, pour vos délivrances, pour vos guérisons, pour la connaissance de la parole de Dieu, pour la méditer et la comprendre. Et c'est aussi important pour vous, parce que il y a deux choses. On a parlé des fruits du jardin tout à l'heure. Ce sont les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la bonté, la patience, et puis tout le reste. Et puis ce sont aussi des dons d'équipement. Oui, les dons de l'esprit, c'est un équipement pour que nous soyons des disciples, que nous soyons des missionnaires, que nous puissions être, eh bien peut-être pour certains d'entre nous ou d'entre vous, eh bien là, des porteurs de la bonne nouvelle, évangélistes par exemple, hein, ou je ne sais quel, un pasteur, pourquoi pas. Et ça, ça vient finalement de ce souffle, de ce vent de l'esprit qui qualifie, qui nous équipe. Dieu ne nous enverra jamais si nous sommes privés d'équipement de Dieu, des instruments pour travailler. Ça, c'est aussi important. Et pour vous dire que c'est certainement, le baptême du Saint-Esprit est certainement l'expérience la plus authentique et la plus véridique, majeure, cardinale, principale, finalement, du message de l'Évangile. Repentez-vous, croyez en moi, nous dit Jésus. Convertissez-vous à Jésus-Christ, convertissez-vous à moi, hein, Jésus dit. Ensuite, vous recevrez, naissez de nouveau, et vous recevrez le Saint-Esprit, et vous serez de nouvelles créatures. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, dans les églises, on prêche de moins en moins le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pratiquement plus de recherche. On n'en parle plus. Quand j'étais jeune, on avait, avec un groupe de jeunesse à Angers, on avait tous les mercredis soirs une réunion. Les garçons se réunissaient et on priait. On demandait au Seigneur qu'il nous baptise du Saint-Esprit. Alors on a attendu. Oui, il faut attendre que notre cœur s'apaise, que notre cœur ne se trouble point de ce qu'on ne connaît pas encore, et d'attendre. Et là, à un moment donné, c'est parti. Nous avons fait plusieurs colonies de vacances avec des jeunes, et surtout des enfants, et je l'ai déjà dit ça, hein. Mais c'était extraordinaire. Dans nos camps de vacances, on avait des enfants pendant 3 semaines, et là, il y avait des temps où on demandait le Saint-Esprit, et à un moment donné, il y en a un qui commence à parler en langue, et tous parlent en langue. C'était quelque chose, et nous avons besoin de revoir ça dans notre vie aujourd'hui, dans notre Église, dans notre monde, que nos jeunes soient baptisés du Saint-Esprit. Ça leur donne un équipement qui est essentiel. Et la Pentecôte, on va la fêter, c'est traditionnel et c'est religieux, hein, on va pas. Et pour beaucoup, c'est un week-end de vacances. Mais bon, une chose qui est certaine, c'est que nous avons besoin de nous attacher à avoir des temps de prière, des temps d'attente où nous pouvons crier à Dieu pour que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Et vous allez voir la différence. Moi, je ne pourrais pas faire ce que je fais pas grand-chose. Mais une chose qui est certaine, c'est que, autant pour l'inspiration que pour la délivrance des messages, si je n'avais pas le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce que je serais? Qu'est-ce que je ferais? Alors, je me souviens toujours de mon baptême du Saint-Esprit. C'était en janvier 1973. Ce n'est pas d'aujourd'hui, hein. Et on a toujours compté avec Myriam sur véritablement des prières qui sont faites par le Saint-Esprit, qui sont faites dans le Saint-Esprit. Et ça vous donne une force extraordinaire. Vous n'en avez pas envie de boire de cette eau? Parce que quand il est question de l'eau, il est question justement de boire. Jésus nous le dit dans Jean chapitre 7, hein, il dit « Venez à moi, prenez de cette eau qui coule ». Et l'image, l'emblématique image, enfin bon, c'est un pléonasme. Mais une chose qui est certaine, c'est que, est comparée finalement à une cascade qui descend d'une eau pure, et ça, ça descend du ciel. L'effusion du Saint-Esprit, souffle supérieur, est un bienfait, un rafraîchissement, une purification, entendez bien, une régénération, et qui nous développe en croissance, en connaissance. Et c'est pour ça que Jésus dira à Nicodème, tu es docteur de la loi, tu ne sais pas ces choses? Tu connais la théologie juive, tu connais la théologie de ton pays, de ce que sont tes contemporains, mais tu ne connais pas l'essentiel. Parce que l'essentiel pour la vie d'un homme sur la terre, c'est de naître de nouveau, d'être une nouvelle créature dans une nouvelle création. Elle est à l'intérieur de nous-mêmes. Il en est ainsi de tout homme qui est né de nouveau. Et nous allons lire le deuxième passage. Dans le livre des Actes, il est beau, vous verrez. Actes, chapitre 2, et au verset 1er. Le jour de la Pentecôte. verset 1er. Acte 2. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ouais. Les 120. Et ils priaient. On ne reçoit pas le Saint-Esprit sans prière, hein, c'est pas possible. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu, tout à coup, soudainement, d'une manière inattendue, c'est moi qui paraphrase, hein. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Imaginez-vous notre rendez-vous ce matin, et que là, ils se mettent à souffler, mais alors quelque chose qui va remplir la rue, qui va remplir la salle, un bruit d'un vent impétueux. Ça bouge de tous les côtés, les chaises sont en train de bouger là. Et vous, vous tenez plus sur les chaises. C'est mon imagination là. Hein? Un vent impétueux qui a rempli toute la maison où ils étaient assis, comme vous. Il a rempli la maison. Parce que le Saint-Esprit est capable de remplir un temple, une salle, mais ce qu'il veut avant tout, c'est remplir notre cœur et notre vie. Des langues semblables à des langues de feu. Des petites lumières qui sont apparues. Voilà. Il y a eu là, à ce moment-là, eh bien, des petites flamèches qui se sont sur la tête de chacun, vous vous rendez compte? Fais attention, Philippe, parce qu'il y a une petite flamme sur ta tête. N'enflamme pas ceux qui sont à côté, hein. Allez. Alors, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, donc ils les ont vues. C'était visible. Séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent, écoutez bien, ils furent remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, remplis du Saint-Esprit? Ils étaient vides ou à moitié vides, et là maintenant ils sont remplis. Et ils se mirent, la manifestation visible, tangible, le signe évident du baptême du Saint-Esprit, c'est qu'ils se mirent à parler en d'autres langues. Des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Des langues qui sont venues, et peut-être mes amis qui nous rejoignaient peut-être ce matin, vous dites, mais qu'est-ce qu'est en train de raconter mon voisin? Il parle une langue que je ne parle pas. Mais on ne l'a pas appris, cette langue. C'est une langue, finalement, eh bien, qui nous est donnée à chacun, donnant l'évidence que nous avons été visités par le Seigneur. Ça vous trouve pas, non? Vous voulez savoir? Ben, vous l'avez entendu. Et on peut prier des heures et des heures, et pendant ce temps-là, ces heures nous remplissent du Saint-Esprit de Dieu. Nous nous fortifions dans l'Esprit de Dieu. Alors n'ayez pas peur, hein. On n'a jamais tué personne, au contraire. On parle des merveilles de Dieu, que vous ne comprenez pas, comme moi je ne comprends pas. Comme cela nous est dit un peu plus loin, on va le lire, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, les gens qui étaient à Jérusalem, ils étaient certainement des centaines et des milliers. À ce moment-là, ils ont entendu le bruit. Ils ont vu qu'il y avait des hommes dans la chambre haute. Ils ont vu ou ils ont entendu finalement le bruit qu'ils faisaient. Et les gens vont se poser des questions. Ils diront, les gens de Jérusalem, ils diront, mais comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Quand je prie en langue, je parle les merveilles de Dieu. J'annonce les merveilles de Dieu. On ne parle plus de jugement et de condamnation, là. Et c'est très difficile, finalement. Et vous savez, le diable s'est ingéré à quelquefois donner des faux parler en langue. Mais on ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit. On ne peut pas être né de nouveau en donnant, finalement, eh bien, de faux parler en langue. Alors, la Pentecôte et les passagers du vent de l'Esprit. Vous avez remarqué, j'ai marqué le mot « passager ». Nous sommes de passage. Les langues disparaîtront. Dans le ciel, ce sera une autre dimension. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous voulons être sur la terre des permanents, pas des passagers. Oui. Vous savez la différence entre un passager et puis un permanent, c'est celui qui est là et qui maintient, qui garde. Ne perdons pas le don que Dieu nous a donné, finalement, du baptême du Saint-Esprit et du parler en langue. Il nous l'a donné, c'est à nous de l'entretenir. C'est un don que Dieu nous a donné pour l'entretenir. Et tous les jours, nous nous parlons, et vous, vous aussi, vous parlez. Vous parlez en langue tous les jours, dans la discrétion, naturellement, ce n'est pas la peine d'ameuter le peuple, en disant, mais qu'est-ce qu'ils baragouinent? Qu'est-ce qu'ils disent? Non. C'est quelque chose qui met en relation entre moi et mon Dieu. Et il nous est dit, Paul l'affirme, il dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Mes frères et sœurs qui avaient des combats et des luttes, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et vous dites « Voilà, c'est quelque chose de terrible. Je suis dans un trou, je suis dans un fossé, je suis là, hein, sur le bord de la route. Je ne peux pas. » Eh bien, demandez à Dieu qu'il vous baptise du Saint-Esprit et vous aurez une force que vous ne connaissez pas aujourd'hui. C'est pas quelque part, c'est pas magique, mais néanmoins, si vous l'entretenez, vous allez avoir la force de Dieu en vous. Alors, le calme revenu dans nos vies tumultueuses, dans notre âme, notre cœur, nos pensées, les incertitudes, les doutes que nous pouvons avoir, les agitations, maintenant, vous allez rentrer dans une dimension de paix et de joie intérieure en permanence, un état permanent, et vous ne serez plus des passagers. Vous serez des permanents. Je serai en vous, nous dit la Bible. Oui, en vous. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Un état permanent. Vous le voulez, cet état permanent ? Oui. Parce que tant qu'on est troublé, on n'écoute pas Dieu. Tant qu'on est perturbé par toutes sortes, mille et une choses, on ne peut pas servir le Seigneur. Ce n'est pas possible. Mais quand véritablement il a mis cet esprit de paix à l'intérieur de nous-mêmes, c'est formidable et c'est merveilleux. Ouais. C'est à vivre. C'est à vivre. Alors, passagers des vents, quel vent souhaitons-nous voir souffler sur nos vies ? Et je serai, nous dit Dieu, avec vous. Dans Jean, chapitre 16, mais il nous dit encore davantage, « Je serai en vous. » Sommes-nous pas dans notre corps le temple du Saint-Esprit ? C'est écrit. Vous savez, nous avons besoin de faire des progrès dans la connaissance, dans le recoupement des textes bibliques, à travers le Nouveau Testament, bien entendu, en priorité, mais de pouvoir finalement faire cette réunion de toutes ces choses que Dieu nous donne, parce que Dieu nous a créés, finalement, il a créé pour nous la foi, la piété, pour que nous puissions eh bien, le servir. Conclusion et délivrance. Le psaume 56, c'est une proclamation, je pense que ça vient de David. Je n'ai pas vérifié, mais ça vient de David. David dira, parce que lui, il a eu des vies tourmentées. Hein. Ouais, des vies tourmentées. Une vie tourmentée. Il dira ceci, « Je me confie en mon Dieu, je ne crains rien, et que peuvent me faire les hommes ?» Vous savez de qui on a peur le plus souvent ? On a peur des hommes, on a peur de leur jugement, de leur critique, de leur condamnation, toutes sortes de choses. Eh bien Dieu nous délivre de nos peurs du diable, des démons, de toutes sortes de choses. Il ne faut pas les voir partout, hein, parce qu'ils sont liés, hein, je peux vous le dire. Ils sont déjà liés maintenant, hein, mais nous avons souvent peur des hommes, et ça nous neutralise. Les passagers du vent de l'esprit, passagers mais avant tout permanents, sont ceux qui demeurent en paix, dans la tranquillité et qui sont paisibles. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Vous avez la foi ? Eh bien, vous pouvez tout recevoir, mes frères et sœurs. Et c'est ça, justement, ce qui est véritablement eh bien, le plus intéressant. Alors, à combien plus forte raison devons-nous garder cette promesse, cette prière, où nous attendons l'excellence de l'exaucement, Jésus dira à ses disciples, « À combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent ?» À ceux qui lui demandent. Vous voulez qu'on le demande au Seigneur maintenant ? Ouais. Moi, j'ai vu des jours de Pentecôte où j'ai prêché, il y a une vingtaine d'années, avant que je vienne vous voir. Ou là, eh bien, seulement sur un message comme celui-ci. Au moment où on était en train de louer et de glorifier le Seigneur dans la salle de culte, où là, eh bien, plusieurs dans les rangs ont été baptisés du Saint-Esprit, ont été remplis de l'Esprit de Dieu et ils se mirent à parler en d'autres langues. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, mes amis, moi, je ne fais pas de démonstration, hein. Je ne veux pas vous imposer les mains, ce qui pourrait être fait naturellement. Mais moi, je vous demande de rester à votre place et d'ouvrir votre cœur, de vous lever dans votre cœur seulement, Et moi, je vais prier pour vous, pour qu'il y ait des baptêmes du Saint-Esprit sur cette église de Saint-Nazaire et les églises de Redon. Et surtout, vous pouvez être baptisé tout de suite, vous pouvez être baptisé demain, vous pouvez être baptisé dans... Mais vous l'aurez demandé et attendez-vous à le recevoir. Que Dieu nous bénisse. Alors restez à votre place et nous allons prier maintenant pour que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ta parole n'est pas vaine. Et Seigneur, c'est vrai que nous sommes ballottés dans ce monde dangereux, ce monde qui est souvent en effet une source de mensonges, de contrefaçons, de, Seigneur, dénaturation des choses. Nous voulons te demander, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de ton Fils, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il le fera. Alors, Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs. Et je te demande, Seigneur, pour ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, que tu les visites maintenant, que tu les visites ce soir peut-être, demain, dans 8 jours, dans 1 mois, peut-être même dans 1 an, mais qu'ils sachent attendre. Qu'ils sachent attendre parce que ils te le demandent maintenant. Remplis-moi ton Saint-Esprit. Baptise-moi de ton esprit. Et donne-moi, Père éternel, d'en avoir le signe évident qui est celui de parler en langue. Non pas pour parler en langue, forcément, mais pour avoir la certitude que tu me remplis, en effet, du Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons te remercier. Baptise du Saint-Esprit. Baptise-nous de feu, Seigneur. Donne-nous ta grâce, s'il te plaît. Et puis je te demande pour ceux qui sont déjà baptisés, nous avons besoin d'entretenir, de ne pas oublier, de ne pas négliger, de ne pas en effet mépriser, Seigneur, le don que tu nous as donné, et d'être renouvelés dans le souffle, dans ce vent fort, dans ce vent, Seigneur, d'où nous savons maintenant d'où il vient, et nous ne savons pas où il va, où il nous emmène, mais nous savons, Seigneur, qu'il nous emmène vers le bien, vers le bonheur, vers la liberté, vers la paix. Au nom de Jésus, maintenant, béni, répands ton Esprit Saint. Merci, mon Dieu. Je te le demande et je te remercie. Merci, mon Dieu. Amen. Amen.